Voilà, j'ai oublié de vous l'annoncer, mais bien sûr, vous allez retrouver toute l'équipe d'Achaïra dans quelques toutes petites secondes.
La clé des ondes.
La, 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 la,
Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10 et c'est l'émission Achaïra, animée par le cercle Jean Barué de la Fédération anarchiste. Bonsoir tout le monde.
Oui, bonsoir Flora.
Bonsoir François.
André.
Philo, bonsoir.
Bonsoir Phil.
Bonsoir Nadège.
Bonsoir Alain. Bien, donc cette soirée du 17 décembre, nous allons commencer l'émission par trois éphémérides, histoire de nous rafraîchir un peu la mémoire. Et ensuite, François nous parlera des nanotechnologies. Pas forcément parce que c'est d'actualité à cause du débat, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est, c'est une politique nationale au niveau des nanotechnologies qui court depuis un moment, donc il va faire un point assez
j'espère exhaustif.
Exhaustif.
Et pas trop rébarbatif.
De la vaste question, voilà.
Et puis c'était une promesse de l'émission aussi, hein.
Bien sûr.
D'y revenir.
Ensuite, bon, nous traiterons de l'actualité, diverse et variée. Puis ce seront, André nous parlera aussi du dernier numéro de Réfraction et d'une personne très peu connue, une anarchiste des temps anciens. voilà. Et on finira l'émission par l'agenda, les rendez-vous, ainsi de suite. Donc, on commence de suite avec les éphémérides. Merci, il a fait clochette. Mais moi, je vais vous parler d'un grand personnage, parce que c'est quand même pas n'importe qui. Il s'appelait Pierre Alexeyevitch Kropotkin. Et il est né à Moscou le 9 décembre 1842. Il est né d'une famille aisée, aristocrate, devient officier, donc officier du tsar en Sibérie, se lance dans l'exploration de la Sibérie aussi et d'autres endroits, puis devient un scientifique de renommée internationale. Entre autres, il démontrera la théorie des glaciations. Lorsqu'il se rend en Suisse en 1872, car il est attiré par l'Association internationale des travailleurs, et plus précisément sa branche libertaire du Jura. Il devient l'ami de James Guillaume. Quand il revient en Russie, Kropotkin fait de la propagande dans les milieux ouvriers. Il est arrêté, emprisonné, il s'évade et s'exile en Angleterre.
En 1876, il séjourne à Neuchâtel, en Suisse, où il rencontre Malatesta et Cafiero et fonde le journal L'Avant-Garde, puis voyage à nouveau en Europe. Il donne des conférences en Angleterre. Arrêté en France en 83, il est condamné à 5 ans de prison. Libéré en 86, il écrit « Parole d'un révolté », s'exile à nouveau à Londres, où il publie le mensuel « Freedom ». Son ouvrage « La morale anarchiste » paraît en 1890. Il écrit également « L'entraide », »,« Un facteur d'évolution » et « La conquête du pain ». Il fait une tournée de conférences aux États-Unis et collabore à de nombreux journaux. En 1916, il signe le Manifeste des 16 qui préconise l'interventionnisme dans la guerre. Un geste totalement incompris dans les milieux libertaires. Oui, sauf que le milieu libertaire, justement, était divisé sur la question de la participation à la première guerre mondiale. Quand même. En mai 17, il revient en Russie, où il refuse de participer au nouveau gouvernement Kerensky, et il dénoncera la dérive dictatoriale des bolcheviks. Il meurt le 8 février 21, à l'âge de 79 ans. Son enterrement sera l'occasion de la dernière manifestation de masse des anarchistes en Russie. Pierre Kropotkine est l'un des plus importants théoriciens et vulgarisateurs de la pensée anarchiste.
Bien, mais là, on va faire un envol vers le Japon, puisque je vais vous parler de Taiji Yamada. C'est pour honorer sa mort début décembre 1970, le 6 décembre plus exactement. Mais c'est surtout pour pouvoir parler de lui. Militant de grande valeur et belle figure de l'anarchisme pacifiste et espérantiste japonais. Voilà, pour le définir. Il était fils d'un imprimeur. Il naît le 26 juin 1892 à Kyoto. Très jeune, il découvre l'anarchisme à Tokyo et milite au sein de la Japan Esperantista Asio, dont il deviendra rapidement le secrétaire. En 1910, quand l'État tente d'éradiquer l'anarchisme japonais, il est encore très jeune, et grâce à ça, il ne figure pas sur la liste de militants recherchés par la police et l'armée. Il échappe ainsi à la pendaison. Cela lui permet de fuir la répression et de rejoindre Formose, puis la Chine. Il se fixe alors à Shanghai, où il devient collaborateur de l'anarchiste pacifiste Shifo et du journal Mingxing, dont il assure la partie espérantiste. Il publie « La conquête du pain » de Kropotkine, mais désapprouve, alors on y revient, durant le premier conflit mondial, les positions bellicistes du Manifeste des 16. Il rentre au Japon où il s'unit avec la compagne Mika, mais en 1927, il est de retour avec Sanshiro Ishikawa en Chine. Shanghai est alors en pleine effervescence révolutionnaire. Il exerce la fonction de professeur d'espéranto à l'Université du Travail et déploie une intense activité anarchiste. Les idées libertaires et notamment la pensée de Kropotkine sont alors présentes dans les grandes cités chinoises. Mais la présence de l'armée d'occupation japonaise en Chine le pousse à quitter le continent pour les Philippines, où il travaillera comme rédacteur dans un journal de Manille durant la Seconde Guerre mondiale. Il réalisera également un premier dictionnaire de tagal japonais. La guerre terminée, il retourne au Japon, où il prend une part active à la renaissance de l'anarchisme dans son pays, et en particulier à la création, le 12 mai 1946, de la Fédération anarchiste japonaise. Ses compétences polyglottes le désignent naturellement à assumer le secrétariat aux relations internationales. Il collaborera au journal anarchiste Aimin Shimbun, qui paraît à partir du 15 juillet 1946. Militant pacifiste, il est également actif au sein de la War Resisters International, pour laquelle il éditera le journal Citoyen du Monde, et assistera encore au 10e congrès en Inde en 1960. Admirateur de Lao Tse, il écrira un livre pour diffuser la pensée de ce grand auteur. À partir de 1961, il est atteint par la maladie, mais bien que paralysé, il continuera jusqu'à sa mort à faire connaître le mouvement anarchiste japonais. Voilà.
pour Taiji Yamaga. Pardon.
Eh bien, pour finir cette éphémérie d'une brève, une très brève, en décembre 1973, parution à Lyon du premier numéro du magazine IRL. Le premier nom signifiait « Information rassemblée à Lyon », qui deviendra ensuite « Information et réflexion libertaire ». Lyon, qui est une ville où, dans les années 70, se développèrent plein d'initiatives autour du mouvement anarchiste, libertaire, de pratiques autogestionnaires avec le restaurant des tables rabattues, les éditions ateliers de création libertaire et bien d'autres. Voilà, cette brève est extraite de l'agenda 2010 du monde libertaire qui, comme ça, pour chaque jour, vous donnera une petite brève de l'actualité et bien d'autres informations. Voilà, donc il est disponible sur Bordeaux pour 7,50€ à la librairie du Muguet et voilà, sûrement par internet ailleurs. Voilà.
Eh bien, merci pour l'info.
Une petite musique et puis
on démarre.
Jamais bio-coup. Je ne voulais pas en foutre un coup. Je m'en sauvais faire des cabérioles, dénicher les nids des bisons, subloyer en béquant des murs qui me barbouillent toute la figure, au lieu d'aller apprendre mes leçons. Ce qui fait qu'un jour que j'étais en classe, tombé idiot, je pouvais pas me promener. En se levant de sa place, toi, t'en viendras à mal tourner. Il avait pas raison, notre maître. Cet homme-là, il devait me connaître par cœur. J'ai trop voulu faire à ma tête, et ça m'a point porté bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais écolier. J'ai pas pu tenir en équilibre dans une place, dans un atelier, dans un bureau, ben qu'on y foute pas grand-chose toute la journée. J'ai enfilé la mauvaise route. Ouais, je sais un gars qui a mal tourné. Master, tous mes copains d'école, les ceux qui apprennent l'ABC et qui écoutent les bonnes paroles, ils sont casés, et ben casés. Il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres qui sont commis épiciers, d'autres qui ont les protections du maire. Avoir un poste d'employé. Ça se laisse vivre comme mouton en plaine. Ça sait compter, pas raisonner. Je pense quelquefois, et ça me fait de la peine, moi, je sais un gars qui a mal tourné. Quand ils seront en orge, le barbe venu, le temps fini, ils verront à se mettre en ménage. Ils s'apponteront un bon petit nid, ce que viendra nicher le bain net avec une femme devant la louer. Ça doit être bon de la femme honnête. Il n'y a que de putain qui veulent bain de moi. Et ça se comprend. Moi, j'ai pas de rente. Personne n'a une dot à me donner. J'ai pas un métier dont on se vante. Moi, c'est un gars qui a mal tourné. Ils seront bien vus par tout le village. Parce qu'ils gagneront pas mal d'argent à faire des petits tripatouillages au préjudice des pauvres gens. Ben, à licher derrière des grosses légumes, des hauts placés. Et quand qu'à la fin de leur carrière, ils verront qu'ils ont ben assez volé, liché, pour plus rien ne faire. Tous les lichés, tous les ruinés diront qu'ils ont fait leurs affaires. Ouais, je serais un gars qui a mal tourné. C'est égal. Si jamais je retourne un jour reprendre l'air du patelin, ou si qu'à mon sujet les langues tournent, que ça en est comme des roues de moulin, eh ben, il faudra que je le dise au gars tiré ou établi qu'a pataugé dans la bêtise, la bassesse et la crapulerie comme des vrais cochons qui pataugent. Faudra que je le dise que j'ai pas mis le nez dans la pâté sale de leurs auges. C'est pour ça que j'ai mal tourné.
C'était Bruno Daraki qui interprétait un texte de Gaston Goûté. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10 et vous écoutez Achaïra, l'émission animée par le cercle Jean Varuet de la Fédération anarchiste. Et je vais passer la parole à François qui va nous parler des nanotechnologies.
Voilà, bonsoir. Tout d'abord, il est difficile de concevoir ce qu'on ne peut pas ni entrevoir, ni apercevoir, ni même voir. Il est encore plus difficile d'en concevoir les dangers à partir du moment où ce n'est ni palpable ni tangible. Il en va ainsi de la radioactivité, qui, comme on le sait, est invisible, néanmoins tout à fait dangereuse. Il en va de même pour les nanos. Elle pose d'abord un problème d'échelle. Comment se représenter l'échelle nanométrique? Je peux citer le chiffre, 1 milliardème de mètre. Ça ne va pas évoquer grand-chose, je pense, sauf à ceux qui connaissent. Alors, il y a des images qu'on peut essayer d'appeler à notre aide. Il y en a une, par exemple, qui simplement nous propose de s'imaginer soi-même étant la planète Terre, regardant de notre dimension de planète Terre une petite bille d'un millimètre. Cette bille d'un millimètre, c'est une nano. C'est l'échelle nanométrique. Je ne sais si la comparaison est parlante. Elle a au moins le mérite de gagner peut-être en représentation. Pourquoi a-t-on choisi le terme, le préfixe nano? Cela répondait à une nécessité. On connaissait la micro depuis bien longtemps, on va dire depuis les années 50, mais tout le monde connaît la microélectronique, par exemple. Et le préfixe micro en grec veut dire petit. Le préfixe nano, lui, veut dire nain au départ. C'est une belle histoire de la mythologie que je ne vous raconterai pas ce soir, mais qui en fait parle d'une muse qui aurait inspiré un poète une muse joueuse de flûte qui s'appelait Nanos. Voilà. La nécessité de recourir à ce préfixe est venue du fait de la nécessité due au progrès de la miniaturisation qui faisait qu'on descendait de plus en plus bas. Or, il était de plus en plus difficile d'ajouter des décimales après le zéro. Voilà. Donc, étant donné que micro petit ne suffisait plus, il fut choisi, tout simplement, de passer à une échelle unitaire qui fut celle de nano, un milliardième de mètre. Voilà pour la précision de l'échelle nanométrique. Pourquoi a-t-on dû recourir à cela? Donc, je vous l'ai dit, il y a eu une miniaturisation de plus en plus accélérée, accentuée, au sein donc du progrès technologique. Il y a eu surtout, en 1981, l'invention d'un nouveau type de microscope, le microscope à effet tunnel. Celui-ci fut le premier à pouvoir former sur l'écran d'un ordinateur, à partir de sa petite pointe tout juste grande de quelques atomes, l'image d'une molécule avec sa structure atomique. Non seulement il fut capable de la former sur l'écran d'un ordinateur, donc pour la première fois on pouvait en quelque sorte la voir, mais en plus grâce à sa petite pointe, il permettait également de palper cette molécule, de la toucher. Et plus tard, après quelques progrès dans l'évolution de ce microscope, de déplacer les atomes ou la molécule elle-même. Ceci offrit en quelque sorte une porte de sortie à un problème que la miniaturisation de la microélectronique avait atteint. En effet, elle se heurtait de plus en plus à des phénomènes de perturbations qui sont très connues depuis longtemps, mais jusqu'ici seulement théoriquement. Ces perturbations renvoient à la physique quantique. Il était devenu impossible de descendre plus bas encore dans les miniaturisations sans rencontrer ces perturbations. Donc, la découverte de ce microscope, qui lui travaillait directement, pouvait permettre de travailler directement les molécules et les atomes, permettait de partir du plus petit pour construire quelque chose et non pas de descendre de plus en plus bas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ce qu'on appelle l'approche ascendante. À partir de cette découverte, d'autres champs s'offraient à la technologie, tout simplement, qui permettait d'élaborer éventuellement une architecture à partir de l'atome lui-même. C'est pour cela que on peut dire que la nanotechnologie est à la matière inerte ce que la biotechnologie est au vivant. Il ne s'agit plus de partir du vivant pour le disséquer de plus en plus, il s'agit de partir de la matière inerte elle-même pour reconstruire ou tenter de reconstruire du vivant. Ce qui implique, c'est une nouvelle approche qu'on dit convergente, puisqu'elle rassemble les deux.
Oui, ben, autant de précisions qui sont pas inutiles, justement, comme entrée en matière.
Tu avais dit précédemment que effectivement les nanos permettaient de dépasser la limite théorique de la saturation d'une plaquette de silicium qui visait à la miniaturisation et qu'ainsi on pouvait remonter du plus petit pour construire de nouvelles structures.
Voilà.
Et que partant des 118 éléments de la matière, on embrassait à la fois la biochimie, la microélectronique et la physique quantique.
Tout à fait, c'est pour ça qu'on parle de convergence. Et il est évident que, vous le savez, le monde dans lequel nous vivons est envahi de ce qu'on appelle des puces, biopuces, qui sont maintenant intégrées absolument à tous les appareils qui nous entourent, à peu près à tous les domaines. Et l'exigence au sein de ce monde technologique, c'est de passer au stade supérieur, à un stade qui permettrait d'en faire encore plus, tout simplement. Évidemment, on ne nous demande pas notre avis, et on a déjà largement souhaitable, désirable, consommable. Les nanopuces offrent la possibilité de passer à un cran supérieur, si on veut. Si on peut parler de cran supérieur, alors qu'il s'agit de l'infiniment petit.
Cette convergence envisageable permettrait la création, par exemple, d'un nouveau carburant, puisque le carbone fait partie des éléments les plus répandus des 118 éléments de la chimie.
Voilà.
Sur la Terre.
C'est-à-dire, à partir de tous les éléments même contenus dans la matière inerte, on pourrait envisager, en tout cas, ceux qui sont les promoteurs de ces technologies, envisageraient de... comment dire, de créer des petites machines, des éléments mécaniques, mais issus des éléments naturels, qui permettraient de se passer des problèmes que la planète connaît aujourd'hui. C'est pour cela que tout un aspect des nanotechnologies telles qu'elles sont présentées font qu'on nous les présente comme des technologies vertes. Mmh. Voilà.
Mais ce pourrait être un marché de l'espoir qui dissimule de toute autre visée.
Tout à fait. On peut faire un inventaire à la Prévert, hein, de tout ce que ces puces ont pu nous envahir, enfin de la manière dont elles ont pu nous envahir. Hein. Il n'y a absolument plus rien qui échappe aujourd'hui.
Depuis quand, alors, depuis quand ça a commencé un petit peu le 80.
Alors, la découverte du microscope, c'est 1981.
Les réalisations.
Et les réalisations, j'en parlerai un petit peu plus après, sont encore, pour l'instant, au stade du laboratoire. Elles ne sont pas encore disséminées. C'est pourquoi, concrètement, je commençais par parler des puces qui, elles, sont plus connues. Pour l'instant.
Excusez-moi, mais pour la compréhension, en tous les cas la mienne, les puces, ça a déjà à voir avec les nanos.
Alors, les puces ont à voir avec les nanos en ceci qu'elles sont réalisées avec une précision nanométrique. C'est-à-dire qu'on arrive à, par les procédés de photolithographie, gravure, à être tellement précis dans le gravage de la plaque de silicium par des connexions transistors, en fabriquant des connexions transistors, on arrive à une telle précision avec les outils d'aujourd'hui que c'est à l'échelle du nanomètre, la précision avec laquelle on réalise les puces. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on arrive à une saturation du nombre de transistors qu'on peut installé par des procédés dits classiques, depuis les procédés qui datent depuis 1950 à peu près, on arrive à la saturation d'installation du nombre de transistors, hein, ou de diodes, hein, ou de connexions, voilà, sur la plaque de silicium. C'est pour cela que on est aux limites d'une forme de développement technologique aujourd'hui.
La saturation vient du fait que, par exemple, on grave communément 55 millions de transistors sur les plaquettes de silicium. Mmh. L'investissement est multiplié par 2 tous les 4 ans, mais le coût des plaquettes diminue et du coup, elles sont jointes à tout objet de façon autoritaire. Par exemple, la puce VeriChip, à très haute fréquence, de la taille d'un grain de riz, comporte un émetteur radio. Elle peut permettre le contrôle du cheptel humain, puisqu'on a commencé d'abord à pucer les bêtes, et qu'il est bien évident que certains ont pensé, par exemple, à pucer les sans-papiers qui arrivent afin de pouvoir les suivre sur tout le territoire.
Voilà, on a commencé à essayer de vendre ces micro-puces en prétendant qu'on allait par cela empêcher les enlèvements, ou en tout cas installer la traçabilité des enlèvements. Donc après les animaux, on pouvait inoculer ces puces VeriChip, par exemple, chez les bébés. Comme ça, on évitait, ou chez l'enfant qui va à l'école, comme ça, on évitait toute possibilité qu'il ne soit pas retrouvé en cas d'enlèvement. On a évidemment aussi évoqué les délinquants sexuels. Aux États-Unis, c'est une cette forme d'inoculation de puces est très très couramment envisagée, plus qu'envisagée, elle va bientôt être pratiquée.
C'est un mouchard équipé d'un GPS interne, voilà, avec émetteur radio, donc qui est à la fois actif et passif.
Ça pourrait servir de carte d'identité, tout simplement.
Hélas, voilà.
Oui, ça pourrait.
Donc, certains fêtards qui vont dans les boîtes de nuit se font implanter ces petits grains de riz sous la peau. Ils ont un petit crédit qui est joint avec la lecture de cette puce VeriChip, et ça leur évite de partir en boîte avec leur porte-monnaie et leur carte d'identité. Ils sont contents.
Ça fait un certain temps que la jet set de Barcelone, autour de certaines boîtes de nuit, et sur la terrasse même de la boîte de nuit, se fait inoculer sans aucune précaution médicale ni sanitaire particulière. Ils s'en foutent d'ailleurs. C'est ce type de puce. Voilà. Bon.
Est-ce qu'elles sont biodégradables?
Absolument pas. Elles ne rempliraient pas leur fonction si elles l'étaient.
Le marché sécuritaire a tenu à vanter le fait que votre 4x4, votre scooter hors de prix, votre moto, votre vélo, etc. pourraient être équipés de cet appareil qui vous permettrait de poursuivre le voleur jusqu'où il ira.
Bien, on écoute une petite musique.
Et avant de poursuivre sur les nanos.
De poursuivre sur les nanos.
D'accord.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. On les cueillit en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, des Versaillais infâmes approchent de Paris. Je t'ai dit avec toi, je vais au barricade. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tout est penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets, les tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre. Le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
C'était Dominique Grange qui a interprété La commune n'est pas morte, un texte de Jean-Roger Cossimon. Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et vous écoutez Achaïra, l'émission animée par le Cercle Jean-Marie de la Fédération anarchiste. On va donc continuer avec François sur les nanotechnologies.
Studieusement,
bien sûr.
Aussi concrètement que possible. Vous savez que classiquement, on nous présente toute avancée du progrès en commençant par nous en détailler les avantages, les perspectives, le bonheur, le fait de sortir de tous nos problèmes. Donc il en va exactement de même pour les nanos, puisque leur vitrine sanitaire se présente de la même façon. Elle se présente comme la solution au problème du lourd handicap, comme la solution à la maladie de Parkinson et au cancer. Tout ça permet au fond d'imposer la dissémination future des nanos grâce à cette vitrine. Il a été examiné depuis leur découverte et les recherches qui sont menées, les problèmes toxicologiques par contre, que les nanoparticules vont poser. Ainsi, on peut dénombrer plusieurs expériences qui ont été menées. Par exemple, chez le rat, une toxicité par inhalation. On a mené cette expérience à partir du dioxyde de manganèse et observé que ce dioxyde de manganèse provoquait un stress oxydatif des cellules, une altération des neurones, une atteinte des zones profondes du cerveau et un risque fort sérieux, ma foi, de maladies neurodégénératives. Donc il s'agit là d'inhalation. On a observé de façon plus peut-être coutumière, si j'ose dire, un problème par contact. Et là, chacun a au moins une fois dans sa vie, je pense, rencontré le dioxyde de titane à travers l'usage des crèmes solaires et de quelques autres produits cosmétiques. Mais surtout les crèmes solaires, 90% à peu près des crèmes solaires, sont constituées en partie de dioxyde de titane. Or, il s'est révélé que ce dioxyde de titane était un photodépendant toxique, c'est-à-dire qu'il favorisait les cancers de la peau, ce qui est tout de même un comble pour quelque chose qui est censé nous en protéger. On a observé également qu'il pouvait également favoriser les cancers du côlon. Voilà pour le contact. Par ingestion, il a été également démontré chez le rat que via l'intestin, les nanoparticules provoquaient des réactions de défense du système immunitaire. Ces réactions de défense provoquaient des inflammations et des allergies. Voilà. Le pire, sans doute, pourrait être atteint avec ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Au départ, présentés comme la solution à créer des câbles avec une résistance jusqu'ici jamais atteinte. En général, on parle des nanotubes de carbone, qui est vraiment le secteur le plus important de la recherche pour l'instant, parce que ça permet de construire des matériaux plus résistants, plus solides, des câbles et tout ça. Sauf que il a été clairement démontré, au point que certains organes très officiels comme l'INSERM ont présenté les dernières études sur la toxicité de ces nanotubes de carbone. Et leur conclusion met en évidence des effets similaires à ceux de l'amiante en ce qui concerne la réponse inflammatoire, la production de lésions de l'ADN, la formation d'aberrations chromosomiques et l'induction de mésothélium, donc le mésothélium étant le cancer de l'amiante, après exposition des cellules mésothéliales. Ces études, encore peu nombreuses, ont néanmoins apporté des résultats si alarmants que la firme japonaise Mitsui Chemicals a arrêté sa production de nanotubes de carbone à la publication de ces résultats. Voilà. En gros, on s'interroge énormément sur la possibilité que ces nanoparticules franchissent assez aisément des barrières, comme la barrière hématocéphaloïdienne, en tout cas les tissus, et donc elles peuvent se répandre absolument dans les zones les plus profondes de l'organisme, sans qu'on puisse évidemment préjuger de leurs effets à long terme.
Et dans le secteur militaire, quelles sont les utilisations qui pourraient être faites?
Alors, dans le secteur militaire, on peut observer déjà, peut-être, comme je parlais un peu plus avant, du fait que ces nanotechnologies sont des disciplines convergentes qui réunissent la biologie moléculaire, la physique quantique, les technologies de l'information. Ce qu'on peut observer dans le domaine militaire, c'est déjà qu'il y a une convergence de capitaux et d'intérêts. Parce que ce qui a lieu en ce moment en grande partie à Grenoble, mais qui se répandra ailleurs en France, c'est l'élaboration d'un mégapôle qui regroupe le service de recherche des armées, l'Institut Laue-Langevin qui fait de la recherche à partir du seul réacteur nucléaire installé en ville, dans une grande ville en France, le CEA, Thales, qui est une subdivision de l'ADS et exclusivement militaire, des groupes privés comme Philippe, je ne vais pas tous les citer, Motorola, tous les plus importants, le pôle d'excellence de la fac, les élus municipaux dont les Verts. Voilà, tout ceci est une autre sorte de convergence que les nanotechnologies semblent favoriser. Tous les investissements, et la majorité en tout cas des investissements aujourd'hui, vont de toute façon aux usages militaires et aux dispositifs de surveillance.
Voilà. Voilà. Contrôle.
Voilà. Alors, je peux le décrire un peu plus avant. Il s'agit surtout des systèmes micro-électro-mécaniques, qu'en résumé on peut appeler MEMS. Ce sont les premières générations de micro-machines. Il s'agit de capteurs et de moteurs miniatures de la taille d'un grain de poussière, dont les prototypes entrent déjà en service aujourd'hui dans l'industrie. L'airbag, qui équipe les véhicules, comporte un détecteur de mouvement de la taille d'un cheveu. Ce petit morceau de silicone détecte une accélération brutale du véhicule avant de déclencher le gonflement du ballon. Plus l'ingénierie au niveau atomique déjà courante maîtrisera la construction atome par atome, plus on pourra passer du niveau microscopique au niveau du nanomonde, de l'infiniment petit. La défense se sera ainsi emparée de ce nouveau microcosme pour y porter l'attaque et la défense. Une application de ces MEMS, actuellement à l'étude, serait une poussière de surveillance qui serait vaporisée au-dessus d'un champ de bataille ou d'une aire sous observation. Les pionniers de ces technologies, on les utilise déjà dans l'aéronautique pour améliorer la portance des ailes des avions en réduisant les turbulences. Elle aura également, cette technologie des MEMS, des applications multiples. Elle contribuera à rendre des obus intelligents, à stabiliser des missiles, à améliorer la robotique de bataille. Voilà. Et on n'est pas dans la science-fiction. Il s'agit ni plus ni moins que de robots guerriers, que de petits robots légers peu coûteux, monofonctions, utilisés comme capteurs ou transmetteurs ou comme armes hautement spécialisées. Aujourd'hui, on sait déjà, ce n'est pas encore ce stade-là, mais que par exemple, en Afghanistan sont employés les drones, dont le pilote se trouve au Nevada. Et depuis le Nevada sur son écran de contrôle. Il déclenche le missile que le drone porte pour atteindre sa cible. Voilà.
Et avec les nanos, ce sera un drone vaporisé, en quelque sorte.
Si on veut, oui.
C'est ça qu'on va appeler la nanochirurgie. Pour les frappes.
Absolument. Exactement, mais
autant, avec effet collatéral.
Voilà, justement, puisque la guerre deviendra chirurgicale, la moindre des choses, ce sera aussi que la chirurgie humaine répare les dégâts causés par la même guerre. Et on utilisera les mêmes nanos dans la chirurgie civile qu'elle aura servi dans la technologie militaire.
En attendant qu'elle te déclenche un cancer et puis que tu puisses aussi faire marcher la machine au titre de ton cancer.
On n'arrête pas le progrès.
Alors, tu as parlé aussi de la création d'éléments naturels. Est-ce qu'il n'est pas envisageable, par exemple, de créer des tissus à partir de nanotechnologie?
Alors, pour l'instant, je ne connais pas les recherches à ce sujet dans les laboratoires, puisqu'ils se semblent se cantonner quand même à la fabrication de micro-machines. Mmh. Ils ne sont pas encore passés à l'élaboration du tissu vivant. Mais,
je ne parlais pas de tissu vivant. Moi, j'avais entendu quelqu'un qui disait que à long terme, par exemple, les pays du tiers-monde qui fabriquaient du coton avaient du souci à se faire par rapport au fait que les nanotechnologies pouvaient créer un tissu tout à fait comparable au coton.
Ah oui, absolument.
Et de ce fait, priver des populations de la production de coton.
Oui, absolument, tout à fait. Par exemple. Puisqu'on pourrait se passer de production classique travers l'élaboration de tissus artificiels. Pour les tissus, voilà. Je peux rebondir. C'est marrant, j'ai oublié un petit détail sur le. Bon, un petit peu pour faire sourire, quand même. Il a déjà été introduit dans les t-shirts et les chaussettes.
Un bronzante.
Oui, des nanoparticules d'argent qui sont censées nous protéger du développement de nos odeurs corporelles dans ces tissus. Et donc, les nanoparticules d'argent sont des pièges à bactéries. Bactéries odoriférantes, si j'ose dire. Simplement, de ce jus de chaussette étrange finit quand même par lessivage et lavage successif, par se retrouver là où toute l'eau usée va, c'est-à-dire dans les stations d'épuration. Or, les stations d'épuration sont également conçues à partir de bactéries qui, elles, sont censées être des bactéries de nettoyage. Les nanoparticules arrivant en masse et ayant des propriétés bactériophages, commencent à manger une partie des bactéries, on va dire bonnes, censées épurer l'eau, ce qui commence à poser problème. Voilà, c'était pour remonter sur les tissus. Pierre Madov appelle ça le jus de chaussette des nanoparticules.
Il y a une signalisation pour les reconnaître, c'est...
Pour l'instant, il n'existe aucune signalisation. Pour la bonne raison déjà que, imagine-toi l'échelle dont on t'a parlé depuis le début, c'est-à-dire comment exactement, ils vont certainement oser le faire, mais quand on parle déjà de 0,1% d'OGM déjà dans un produit, ça fait rire, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais alors pour ce qui est des nanoparticules, imagine une échelle avec un... Voilà, il faudrait qu'ils changent à nouveau d'échelle, quoi, pour que ça soit...
présence.
Ils le feront. On peut supposer que peut-être la présence sera dictée. Mais pour l'instant, il n'existe absolument aucune règle.
D'accord. Non.
Le tissu et les chaussettes qui sont vendus comme ayant des propriétés anti-mauvaise odeur. D'accord. C'est tout. Voilà. Bon, peut-être je peux tirer la conclusion. Donc, il y a eu des résistances à ce débat public qui a eu lieu un petit peu partout, dans toutes les grandes villes de France, organisé pour vanter les bienfaits des nanos. Et dans un certain nombre de villes, ces résistances ont soit contesté la positivité, le positivisme scientiste des débats, soit carrément interrompu le débat, je crois, comme à Toulouse, et à Grenoble d'ailleurs, où généralement les opposants ont été accueillis, à Bordeaux également d'ailleurs, nous avons été accueillis pareillement, soit par la police, avec un grand renfort de moyens, soit directement, comme à Grenoble, par la brigade anticriminalité qui participait au débat dans la salle. Voilà. Et donc, je nous propose de continuer à rester vigilants et de faire en sorte que le monde d'en bas ne nous tire pas par les pieds.
On pourrait peut-être donner un site.
Bibliographie.
Ou une bibliographie.
Oui, citons la bibliographie. Peut-être un petit ordre d'idée des investissements de l'État ou pendant qu'on y est, si tu t'en souviens.
Oui. Bien, le dernier prêt en date, le voilà. Prêt Rocard-Juppé, qui parle de pôle d'excellence. Quand on entend pôle d'excellence, on sait ce que ça veut dire à Grenoble, puisque le pôle d'excellence est directement relié au développement des industries nanotechnologiques. Donc, le plan Juppé-Rocard, c'est 15 milliards, donc la moitié du prêt, là, ces fameux prêts là, dont on nous rebat les oreilles, c'est la moitié qui serait consacrée aux deux, aux nanotechnologies et aux pôles d'excellence universitaire. Mmh. Voilà. Donc, on me propose
c'est vertigineux.
On me proposait de donner une petite bibliographie. Mmh. Donc, il y a le site Pièces et Main d'œuvre, www.piecesetmaindoeuvre.com. On trouve ici également sur www.grenoble.indimedia.org. On peut lire avec intérêt Demain le Nanobond, Demain le Nanobond de Jean-Louis Potra, édition Fayard. On peut lire également La guerre au XXIe siècle de Laurent Muraviec aux éditions Odile Jacob. On peut lire Totalement inhumaine de Jean-Michel Truong aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond au seuil. J'en ai oublié quelques-unes dans l'affaire. Bien, ça sera l'objet d'un nouveau point, peut-être.
Voilà.
Tu nous proposes quoi, une musique ?
Une musique.
Une musique. Me fue dejando el amor. Mundo extraño ya era el mío, de silencios criminales, de alertas, ojos ajenos, equivocando los males. En el día, las noches no las vivía. Te estás matando, te estás matando. Thank you.
los que están vigilando la culpa. La tuve yo. Calladamente la pena, ruidosamente el dolor. Calladamente la pena, ruidosamente el dolor.
C'était Angélique Ionatos sur un texte de Frida Kahlo. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10. C'est l'émission Achaïra, animée par le cercle Jean Barbier de la Fédération anarchiste. Vous pouvez nous joindre en téléphonant au 05 56 50 69 99, donc directement à l'antenne, ou bien nous écrire à cercle-jean-barbier@fédération-anarchiste.org. Bien, alors maintenant on rentre dans la deuxième partie de l'émission pour traiter l'actualité et je passe la parole à Philo.
Allez.
Oui, oui, oui. Ah, pardon.
Oula. Bon, mais. Désolé, donc je. Oui, juste vous donner une information. Voilà, il y a une l'actualité de il y a à peu près un an, vous savez, vous, vous rappelez peut-être le il y avait un bombardement de la bande de Gaza par Israël. À l'époque, peu de temps après, nous accueillions sur Bordeaux une caravane qui allait vers Gaza, Free Gaza, et qui partait d'Angleterre sous l'impulsion, on va dire, d'un député britannique, John Galloway. Et donc, il y avait une bonne cinquantaine de camions, de pompiers, de camionnettes diverses, de transports de bateaux, de camions frigorifiques, et qui sont passés donc par les terres neuves de Bègle, et qui ont continué par l'Espagne et remonté le Maghreb, puis le Machrek, pour, bien, d'une certaine façon, rompre le blocus de Gaza et laisser tous ces véhicules et apporter une aide et une solidarité. Donc l'idée s'est faite au niveau international bien de recommencer pour l'anniversaire de ces bombardements, pour cette fin d'année, de rompre à nouveau le blocus de la bande de Gaza. Et donc il y aura 1300 personnes du monde entier qui partiront vers l'Égypte et tenteront d'ouvrir la porte de Rafah. Enfin, tenteront de passer, de négocier avec les autorités égyptiennes l'ouverture de la porte de Rafah. Et en particulier, à Bordeaux, il y aura au moins trois Girondins qui iront dans cette marche pour la liberté, puisque dans le programme, il y a une marche de 1 miles qui est à peu près, c'est des mesures beaucoup plus raisonnables que celles que nous a parlé François, c'est 1 km 500. Voilà. Donc, ça sera du 27 décembre 2009 au 2 janvier 2010 que ces personnes venues du monde entier tenteront de rompre le blocus de Gaza, en passant par Rafah, en mémoire un petit peu des massacres de Gaza perpétrés il y a un an. Cette démarche donc fait suite, comme je l'ai dit, à l'accueil de ces plus de 100 camions. Et donc il s'agit de montrer ce qui se passe là-bas, la souffrance du peuple palestinien, le non-respect du droit international, et d'en faire le relais. Donc il y aura pour cela une conférence de presse samedi matin à 11h, 8 rue de la Course. Et donc je me propose de vous lire l'appel, je me proposais de vous lire l'appel, mais il se trouve que il y a un certain nombre de phrases que mon imprimante a mangées et qui va rendre incompréhensible, je pense, le texte. Donc, voilà, on est des fois trahi par la technique. Hein, la technique peut faire des progrès, puis d'autres fois, vous laissez sur le...
Est-ce que tu pourrais le résumer ?
Mais je peux vous, voilà, je vais essayer de vous résumer ce projet qui a été conçu au début donc de 2009, ça s'appelle la Gaza Freedom March. C'est une coalition internationale qui souhaite réunir donc des milliers de volontaires, à la fois à la frontière égyptienne de la bande de Gaza, donc j'ai dit à Rafah, mais aussi il y a un projet que partent des personnes de Jérusalem vers le checkpoint israélien de Erez.
Voilà. Plus compliqué.
Voilà. Et donc voilà, l'idée c'est que ça converge de tous les pays pour le 27 décembre, un an jour pour jour après le début des bombardements israéliens. Il s'agit de célébrer la fin de l'année et la nouvelle en montrant l'attachement aux droits de l'homme et au droit international, voilà, en exigeant l'application. Après donc l'initiative courageuse du Free Gaza, donc ça c'était le bateau affrété par la belle-sœur de Tony Blair, entre autres, qui a essayé de rompre le blocus par la mer. Certains avaient réussi à passer, d'autres avaient été refoulés, et la caravane c'était Viva Palestina, qui ont donné cet exemple. Il s'agit d'être, pour eux, la proposition d'être plus nombreux à dire non à l'injustice, oui à la liberté. Manifestation pacifique qui s'inspire de décennies de résistance palestinienne non violente et qui est à la portée de chacun. Il y a une déclaration de principe et d'objectif de la coalition. Amnesty International a appelé le blocus de Gaza une forme de punition collective de la population de Gaza tout entière, une violation flagrante des obligations internationales. Human Rights Watch, notre association humanitaire internationale, a qualifié le blocus de Gaza de violation grave du droit international. L'ancien président US Jimmy Carter a dit que la population de Gaza était traitée comme des animaux et a appelé à la fin du siège de Gaza. Une des sommités sur Gaza, Sarah Roy, de l'université d'Harvard, a déclaré que la conséquence du siège est indéniablement une souffrance des populations. La loi est claire, la conscience de l'humanité est choquée, pourtant le siège de Gaza continue. La population de Gaza a exhorté la communauté internationale à aller au-delà des paroles de condamnation, et il est temps pour nous d'agir et de mettre en œuvre la longue marche vers la liberté. Donc le 31 décembre, nous marcherons aux côtés du peuple de Gaza pour briser une manifestation non violente qui brisera le blocus illégal. Elle s'inspire des volontaires internationaux qui se sont tenus aux côtés des agriculteurs palestiniens lors de leur récolte, des équipages de navires qui ont fait des manifestations humanitaires à Gaza. Elle s'inspire aussi de la démarche du Mahatma Gandhi. Gandhi avait appelé son mouvement le Satyagraha, ou étreinte pour la vérité, de la vérité. Nous nous accrochons à la vérité que le siège d'Israël sur Gaza est illégal. Gandhi a dit que la non-violence exigeait plus de courage et qu'elle était plus efficace que la violence. Nous voulons prouver la vérité de cette conviction. Nous n'avons pas peur, nous ne reviendrons pas en arrière et nous ne laisserons pas Gaza mourir. Selon Gandhi, la finalité de l'action non-violente est d'accélérer la conscience de l'humanité. Ceux d'entre nous qui habitons aux États-Unis s'inspirent également du mouvement pour les droits civils. Si Israël dévalue la vie des Palestiniens... Alors c'est un problème de traduction, peut-être, ils l'ont marqué civil, mais... Je crois que c'est...
Les deux se disent.
Voilà. Si Israël dévalue la vie des Palestiniens, alors exactement comme les blancs nordistes sont descendus vers le sud pendant l'été de la liberté, nous devons tant servir de bouclier humain. pour faire blocage à l'action israélienne, que porter personnellement témoignage de l'humanité à laquelle les Palestiniens sont confrontés quotidiennement. De l'inhumanité, évidemment.
Oui.
Si Israël défie le droit international, alors exactement comme les commissaires fédéraux furent envoyés pour faire appliquer la loi. Voilà. Cette marche ne peut réussir que si elle réveille les consciences d'humanité. Et si le monde entier nous regarde, Israël ne pourra pas nous arrêter. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Voilà en quelques phrases l'appel mené le 5 octobre et qui a été relayé par un certain nombre de personnalités, certaines que nous avons citées ici comme Howard Zinn ou Noam Chomsky. Je parlais tout à l'heure de John Galloway. Il y a aussi Ken Loach et beaucoup d'autres personnes. Naomi Klein en fait partie. Jeff Alper, bon, et en France, il y a aussi le ministère des Affaires Populaires, Xavier Renoux des comment ça s'appelle le mouvement
des désobéissants.
Des désobéissants. Comment il s'appelle, Jean-Claude Amara de Droit Devant. Voilà, et bien d'autres personnes. Voilà, donc nous vous tiendrons voilà, au courant normalement après le retour le 2 décembre, prochaine émission de comment ces choses-là se sont passées.
Si vous revenez.
Si on revient, voilà.
De toute façon, ce sera le 2 janvier.
Son retour, c'est
le 2 janvier.
Plutôt que le 2 décembre. Bien. Ben, merci Philo, oui. Je vais poursuivre peut-être. J'avais l'intention de parler assez brièvement, mais quand même, d'invoquer la question de la burqa, puisque bon, c'était j'avais cette intention depuis quelque temps, et puis bon, il se trouve que le débat revient plein pot là-dessus. Donc c'était plutôt sous l'éclairage de la burqa, mais pourquoi ce débat-là maintenant ? Dans la mesure où on peut déjà noter en premier point que le nombre de femmes qui mettent cette tenue n'est pas très élevé, et que le ministère de l'Intérieur lui-même signale, je cite, qu'il n'est pas en grande expansion. Fin de citation. Donc on peut penser que ça a été évalué et que bon, ce n'est pas significatif du point de vue du nombre. Une chose est sûre, c'est que le débat déclenché contribue à amplifier par contre cette question en exacerbant le communautarisme. Effectivement, on peut penser que ça isole encore davantage les femmes qui prennent la décision. Que ce soit elles, que ce soit leur entourage, ça c'est une question qui est soulevée mais qui est absolument pas clarifiée. Donc on ne défend, bien évidemment on ne défend pas le port du voile et encore moins celui du voile intégral, mais c'est poser la question comme elle a pu le démontrer précédemment quand il a été question du voile à l'école. C'est-à-dire que ce sont à nouveau des femmes, puis en plus des femmes musulmanes qui sont là montrées du doigt, qui sont stigmatisées. Et bon, ben, on peut quand même questionner quel peut en être l'effet. Donc le port de la burqa en France est aujourd'hui un phénomène marginal, mais le débat lancé ne peut contribuer à l'amplifier. Alors ensuite de ça, ben, la question c'était de se demander pourquoi braquer les projecteurs sur cette question qui divise, à un moment où les licenciements pleuvent, pourquoi dresser les gens les uns contre les autres, quand on a besoin de nous unir pour faire face à tous ceux et celles qui veulent nous faire payer la crise. Bon. Donc je pense que la réponse est contenue dans la question. Effectivement, c'est une façon de diviser. Les membres du gouvernement parlent de défense des droits des femmes. Une fois de plus, on pourrait parler de cynisme, parce que parler des droits des femmes quand ces mêmes membres du gouvernement ferment les yeux devant la liquidation des emplois, multiplication des licenciements, augmentation du chômage, extension de la précarité, et donc chute vertigineuse du pouvoir d'achat. Et on pourrait pointer le doigt sur le fait que ce sont les femmes des milieux modestes qui pâtissent les premières et de toute façon le plus intensément de ce manque d'autonomie, étant de fait les plus touchées par le chômage. Et bien évidemment, tout cet ensemble les rend vulnérables à tout, et donc à toutes les pressions également. Ensuite, on pourrait également parler de la proposition d'interdire le port de la burqa sur la voie publique. Mais ça vient s'inscrire dans un contexte de développement de la répression et de limitation des libertés dites démocratiques. En effet, il s'agit d'interdire une tenue vestimentaire à des femmes adultes. Cette proposition d'interdiction arrive à la suite d'une série de mesures et d'actes répressifs qui sont de plus en plus préoccupants. Quels que soient les thèmes, on se rend compte qu'on a affaire avec le contrôle et la répression. Donc, répression, criminalisation également de la protestation sociale, fouilles des cartables au collège, arrestation d'enfants, fichage de plus en plus généralisé. Donc, nous nous retrouvons devant une proposition d'interdiction d'une tenue vestimentaire dans la rue. Ça paraît être un pas supplémentaire de restriction des libertés individuelles. Et puis, ce débat ne prépare-t-il pas également les esprits à d'autres choses? Effectivement, l'oppression des femmes afghanes a servi de justificatif à l'envoi de troupes impérialistes dans ce pays, après avoir détruit durablement l'Afghanistan, bombardé les populations, livré le pays aux seigneurs de guerre qui ont poussé la société afghane vers le chaos, après avoir enfoncé la majorité des femmes dans la misère et la pauvreté, le seul droit qu'elles ont gagné, c'est celui de vivre des situations d'insécurité totale. La situation de la grande majorité des femmes afghanes s'est aggravée, et le droit fondamental, qui est le droit à la vie, a été bafoué. Ce ne sont pas les troupes impérialistes en Afghanistan qui feront certes pas reculer le port de la burqa. Alors bon, est-ce que c'est une façon de préparer les esprits à l'intensification des combats des troupes françaises en Afghanistan? On peut se poser la question. Une loi en France qui interdirait la burqa, de toute façon, ne résoudra en rien le problème. Bien au contraire, l'interdiction de la burqa ne fera qu'enfermer un peu plus les femmes. Elles seront alors condamnées à rester chez elles et donc à couper tout lien social avec l'extérieur.
De toute manière, pour moi, la burqa, ça rentre complètement en parallèle avec le discours autour de l'identité nationale. Là, c'est...
Oui, tout à fait.
Ça rentre complètement dedans. Et c'est vrai qu'ils se sont servis aussi de la votation en Suisse pour aussi en rajouter encore une couche.
Mmh. Tout à fait, oui. Quand on parle de stigmatisation, c'est un petit peu dans ce sens, quoi. Ouais, une façon de stigmatiser une communauté.
Comme l'a fait Nadine Morano, je crois.
Oui, n'est-ce pas?
Par exemple.
Vous en avez entendu parler. Voilà, donc il me semblait que c'était à un moment où...
Il me semble qu'il y a quelques années, ou un certain temps, on était très content que les prêtres soient interdits de porter la soutane dans la rue. Mm. Et maintenant, on va accepter la burqa facilement, comme ça? Il y a un problème.
En tous les cas, je pense que, au-delà de ce qu'on peut penser de la burqa, et c'est pour ça que j'ai bien précisé, la question, c'est pas de dire, bien sûr que, je porte une parole qui se situe contre le fait d'être voilé, contre le fait de, c'est certain, mais en même temps, c'est certainement pas en légiférant autour de la question. J'ai eu l'occasion dernièrement d'en parler avec deux jeunes femmes dont les mères elles-mêmes ne portent absolument pas le voile, qui étaient donc le foulard, mais qui étaient habillées de la tête aux pieds, on voyait rien, aucune forme, et pour elles c'était hors de question, alors qu'il s'agissait d'une question de professionnelle, c'était hors de question de pouvoir se départir. Dans la mesure où le groupe qui était présent, dans ce groupe-là, il y avait un homme. Et le fait qu'il y ait un homme entraînait chez elle l'incapacité, alors psychique, j'en sais rien, culturelle, peut-être religieuse, de se départir. mais précisant bien que leur mère ne portait absolument pas voilà, ce type de voile. Donc c'est une réaction, et je pense que c'est en travaillant avec elle, en parlant, certainement pas en légiférant, parce que, enfin bon, j'arrête là.
Oui, moi je voulais faire un petit point sur des résistances. Alors, par exemple, les travailleurs sociaux de l'Isère, notamment les travailleurs sociaux qui s'occupent des centres d'accueil d'urgence ou qui répondent au 115, ont reçu des consignes des agents de la DAS de ne plus accueillir les personnes roms. Il a été demandé au personnel de l'accueil téléphonique de demander l'origine des personnes qui appellent avant de continuer tout dialogue avec elles. Alors beaucoup ont refusé d'appliquer cette disposition, et ces travailleurs sociaux ont monté un collectif qui s'appelle Parti Pris, et ce collectif a interpellé le préfet de l'Isère sur cette position, mais sans résultat. Ils ont également déposé une plainte à la ALDE. La DAS, avec l'aval de la préfecture, a demandé à l'entrée de l'hiver que le dispositif ne soit ouvert que partiellement, que les Européens de Roumanie soient fortement dissuadés d'accéder au dispositif en invoquant le risque d'appel d'air et le fait que les températures n'étaient pas assez basses. Des vigiles ont même été payés pour que les publics les plus exclus des exclus ne squattent pas le dispositif qui leur est destiné durant 5 mois de l'année. Donc l'ensemble des agents ont décidé, à partir du vendredi 27 novembre, tant que le dispositif ne sera pas pleinement ouvert à tous les publics et sans aucune discrimination, de cesser toutes les activités relatives à l'administration des services, par contre, afin de ne pas prendre en otage les usagers, de continuer à accueillir, à héberger, à accompagner, à prendre soin et à orienter, dans la mesure du possible, les usagers hébergés dans les centres. Voilà. Tous les travailleurs sociaux ne sont pas complices des politiques de discrimination actuelles, loin de là. Dans un autre domaine, le 9 décembre, le collectif de résistance à bas élèves avait organisé une journée dans plusieurs départements. Ce collectif est dans une stratégie de dépôt de plainte par les parents d'élèves contre le fichier bas élèves. Il y a actuellement, depuis mars 2009, 1800 plaintes qui ont été déposées contre le fichier bas élèves. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le gouvernement... quand le gouvernement a reculé un peu sur le fichier bas élèves en supprimant quelques rubriques, on a un peu oublié qu'il y avait la base nationale des identifiants élèves qui, elle, est toujours maintenue. Vous savez, cette base qui va conserver pendant 35 ans les informations avec les noms, prénoms, adresses, date de naissance, cursus scolaire complet de l'école maternelle à l'université. Voilà. Donc il y a encore à se battre pour la suppression de cette base informatique. Et puis, juste pour finir, en Italie quand même, il y a le maire d'une commune de 8000 habitants qui a voulu faire un Noël blanc, c'est-à-dire se débarrasser de tous les sans-papiers, les migrants, enfin, ceux qui n'étaient pas...
Les basanés.
Et donc, il y a des agents qui sont allés dans le village, qui passaient de maison en maison pour faire un peu le compte de tout ça. Et il y a quand même 3000 personnes qui sont descendues dans la rue pour manifester contre... Alors, c'est quand même... Bon, il est dans la lignée politique de Berlusconi. Hein, c'est un gars qui appartient à la Ligue du Nord. Mais quand même, ça fait froid dans le dos.
Enfin, ce qu'on pourrait relever au Wardin, c'est que à chaque fois, il y a quand même des gens qui s'insurgent, qui arrivent à s'élever contre... Alors, évidemment, ils ne sont peut-être pas les plus significatifs en nombre, mais ils existent. Bon.
Enfin, l'Italie est le pays où on a inventé le jeté de cathédrale sur les présidents. Je pense que on a vu des jeux se développer pour le lancer de savate sur les présidents américains. Je pense que demain on verra des jeux électroniques pour jeter des cathédrales sur les présidents.
Apparemment, ça fait plus mal quand même parce qu'il a eu le nez cassé quand même.
Et les dents dedans. Ouais. Et pas, c'est vrai que pour séduire les jeunes filles, ça va être.
Il a les moyens de se faire poser.
Là, avait manqué sa cible, celui avec les chaussures.
Il n'a pas trouvé. Mais il paraît qu'on a trouvé dans l'hôpital encore notre Italien qui le menaçait parce qu'il n'avait rien, mais on a retrouvé des battes de baseball dans sa voiture, non, des battes de golf, et donc on a fait le lien, puisque lui se baladait dans l'hôpital de où était Berlusconi et qu'il avait des cannes de golf, c'est qu'il avait l'intention de lui casser les autres dents. Bon, mais s'il commence à être parano, les chefs d'État, c'est pas mal.
Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on pourrait te donner la parole, André.
Une petite chronique édition papier. Virginie Barbet, vous connaissez?
Pas du tout.
Vous connaissez pas?
On ne demande qu'à connaître.
Alors, je vais vous parler d'un petit livre d'un peu plus de 100 pages. Il s'agit de Virginie Barbet, une Lyonnaise dans l'international. Alors, l'auteur de ce bouquin s'appelle, excusez la prononciation, Antier Schrupp. C'est édité par l'atelier de création libertaire dont on parlait tout à fait au début, à Lyon. Donc en 2009, ça ne coûte que 10 euros. Qui était donc cette Virginie Barbet? Une féministe active dans la Première Internationale. Vous avez bien entendu, la Première Internationale. Une dame qui discutait avec Marx et avec Bakounine, ou essayait de le faire. Et qui a été complètement négligée par la postérité parce qu'elle était... une femme. On ne connaît ni sa date de naissance, ni celle de sa mort. C'est un peu dur, hein. On sait qu'elle était cabaretière. Oui, elle tenait un bistrot. Claire Ozias, que l'on connaît, dans la préface, évoque cette femme révolutionnaire restée dans l'ombre des grands hommes. Les grands hommes, on pourrait en parler aussi. Bon. Virginie Barbet est sortie de l'anonymat grâce à des articles qu'elle a écrits dans différents journaux, par exemple dans L'égalité de Genève ou La solidarité de Neuchâtel, et grâce à des brochures que Antje Schrupp, l'historienne, a été dénichée dans les archives et qui sont reproduites dans le bouquin. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette Virginie pour être un tout petit peu célèbre, puisque maintenant ça y est, on la connaît? Eh bien, elle a pris position, comme Bakounine, pour l'abrogation du droit d'héritage. C'est elle aussi, sûrement, qui a écrit le manifeste des femmes lyonnaises adhérant à l'international pour engager les jeunes gens de 1870 à refuser le service militaire. Alors, elle écrit, c'est un acte révolutionnaire, celui du refus de la conscription, qu'il faut protester et non pas faire d'inutiles réclamations. Alors elle s'adresse aux jeunes gens. Que craignez-vous? La prison? Nous, vos mères, vos sœurs, vos amis, nous veillerons sur vous, nous combattrons avec vous. Aussitôt que nous aurons appris qu'un ou plusieurs d'entre vous ont été arrêtés, nous irons en foule réclamer à l'autorité compétente, et il faudra bien qu'on nous rende justice. Elle expliqua aussi, ailleurs, pourquoi elle était collectiviste. C'est le terme qu'on employait à cette époque. C'est-à-dire qu'elle était pour l'égalité économique et sociale. Elle dit, chacun pour tous, tous pour chacun. Le sol et les matières premières doivent devenir propriété collective. Et elle, la citoyenne obscure, comme elle se nomme, elle ose écrire une réponse d'un membre de l'international à Mazzini. Alors ce Mazzini, il était aussi célèbre à l'époque. Pour lui, Dieu est la base unique, éternelle et inébranlable de vos devoirs et de vos droits. Contre cela, contre Mazzini, Virginie Barbet se déclare résolument athée. Alors je pense qu'on m'a fait parvenir ce bouquin parce qu'il y est question de résistance à la conscription et aussi de non-violence. Je trouve que l'auteur veut tirer un peu trop Virginie Barbet du côté de la non-violence, c'est excessif et un peu anachronique. Néanmoins, retenez bien ce nom, Virginie Barbet, et allez commander le bouquin. Si on a un peu de temps, là, je peux vous parler du dernier numéro de Réfraction. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Réfraction, c'est une revue sous-titrée « Recherche et expression anarchiste ». Le numéro 23 qui vient de paraître a pour titre « L'entraide d'un facteur de révolution » au pluriel. Alors, je vais vous en donner le sommaire, hein, je ne peux pas tout vous dire. Dès le début, Marianne Henkel rappelle l'histoire du titre du livre de Kropotkine, « L'entraide d'un facteur de l'évolution ». Le titre de la revue, c'est « L'entraide d'un facteur de révolution ». Alors, le deuxième papier, c'est un texte de Jean-Christophe Angot qui nous met en garde contre le côté naturaliste de Kropotkine, tout en rappelant que ce livre reste encore incontournable. Puis, Annick Stevens se demande s'il est légitime de fonder une éthique sur la nature et confronte les arguments de la tradition philosophique, une conception fonctionnaliste ou utilitariste de la morale, soit une éthique fondée sur la liberté. Alain Thévenet, en commentant le dernier livre de l'anthropologue Marshall Saline, montre que la conception d'une nature humaine méchante est loin d'être universelle. Jacques Van Nelden, son papier est un peu plus difficile à lire encore, met en évidence les dérives de certains scientifiques qui prétendent expliquer, voire guider nos choix moraux sur la base de modèles biologiques controversés, en s'appuyant sur une vision pan-sélectionniste de l'évolution, dans le cas de la sociobiologie, ou sur un réductionnisme excessif en génétique du comportement. Pablo Servigne, je vous en avais parlé, c'est lui qui avait fait la préface de la réédition du bouquin de Kropotkine. Donc lui, il retrace les découvertes scientifiques faites sur l'entraide au cours du siècle. Revisitant ainsi Kropotkine, il montre que les secrets de l'entraide sont loin d'être percés et que les approches scientifiques sont souvent contradictoires. Pierre Jouventin, on a l'habitude avec lui, il est un brin provocateur. Alors, sur les traces du philosophe Peter Singer, il plaide pour que la gauche accepte enfin d'intégrer la nature biologique de l'homme dans son programme. André Bernard avance que l'entraide est une sorte d'obligation morale pour les anarchistes. « Être anarchiste oblige », écrit-il. Pour Sylvie Kneur, être solidaire et anarchiste individualiste n'est pas une contradiction. L'entraide libertaire permet et respecte les démarches individuelles. Dans un entretien, Laurence Baudelet et Irène Perea, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Anarchiste », Irène Perea, discutent de l'expérience des jardins partagés et en quoi ils peuvent être perçus comme des îlots libertaires. Martial Lepic, c'est un militant du groupe Louis Michel de Paris, analyse la place que peut prendre l'exemple des mutuelles de fraudeurs, je ne sais pas si vous connaissez les mutuelles de fraudeurs, dans les transports en commun. Pour lui, l'entraide est alors un combat. Et puis un dossier important sur le contre-sommet de l'OTAN à Strasbourg, avec Alain Bir, Pierre Sommermeyer, Guillaume Gamblin et Wolfgang Hertel, qui apportent leur témoignage et appellent à une réflexion approfondie sur la récurrence des explosions de violence lors des manifestations. En transversal, Alexandre Neumann défend l'idée que les mouvements trotskistes n'ont en rien changé leur fonctionnement vertical et autoritaire, malgré leur prétention à l'ouverture et à la démocratie interne. Quant à Bernard Henquin, il s'interroge sur la compatibilité entre le caractère subversif d'une œuvre d'art et les subventions publiques qui la promeuvent. Donc la revue, 12 euros pour 176 pages. On trouve ça à la librairie du Muguet. Voilà. C'est tout.
Merci André. On écoute une petite musique.
Adieu! Bon.
brouillard dans le cigare, mais on refuse d'être dans le cirage. Quand dans le bordel on s'égare, c'est pas qu'on essaye pas d'être sage. On en trouve encore à nous dire qu'on n'a rien compris à la vie. Arrête un peu ou on va rire, ou explique-nous si t'as envie. C'est vachement compliqué d'être né, mais c'est marrant d'être vivant. On est tout le temps étonné, et puis on sera pas mort avant. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie, hein? Bah ça résonne. Boum, un coup par terre, un coup de boum. Boum, badaboum, écoutez bien le théâtre. Boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or, dans la boum. Boum, badaboum, t'es calme ou bien. Boum, boum, tu m'as noté que ma tête. Badaboum. Si on sait pas tout le temps bien fait, c'est qu'on comprend rien au bazar d'un bon dieu ou d'un Lucifer. C'est quand que c'est bien, c'est quand que c'est mort. Alors ben devinons, devine. Y'a même des fois où on s'en doute. On danse dans un champ de mine, parce qu'il y a 3 milliards de routes. Peut-être un corps, un palpitant. Eh, démerdez-vous mes chéris, on n'est pas armés pour longtemps. Mais j'ai un pote qui dit que ça suffit. L'Arjos. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie? Ben ça résonne. Badaboum, un coup par terre, un coup de boum. Boum, badaboum, écoutez bien le thé à boum. Boum, badaboum, tu pioches dans l'or, dans la boum. Boum, badaboum, t'es calme ou bien. Boum, boum. Badaboum. Ça empêche pas de dire bonjour, ça empêche pas les éclats de rire. Je te parle pas des histoires d'amour, du poulet qu'on a fait cuire. On comprend rien, mais on y va, et c'est là que ça devient beau. C'est parce qu'on est tous dans le même cas, faut avouer que c'est rigolo. Alors si tu parles, je me tais, et puis si tu ris, ben je pleure. Faut juste qu'on soit tous à s'aimer. À part machin là, et sa sœur. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie? Ça résonne. Badaboum, un coup par terre, un coup de boum. Boum, badaboum, écoutez bien le théâtre. Boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum. Boum, badaboum, t'es calme ou bien. Boum, 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 aïe, 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 aïe. Badaboum.
C'était Loïc Antoine. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10 et vous écoutez Achaïra, l'émission animée par le cercle Jean Barruet de la Fédération anarchiste. On continue avec Flora.
Oui, voilà. Bon, c'est une fin d'année. Alors on revisite un peu toutes les thématiques qui ont été abordées dans l'année, y compris la question de la camisole chimique. Donc je vous propose de vous lire une lettre ouverte écrite à Nicolas Sarkozy et signée d'une ex-victime pardon, de pédophilie. Alors voilà. À l'occasion de l'affaire Odo, vous et des membres du gouvernement vous êtes déclaré favorable à une législation autorisant la castration chimique de certains délinquants sexuels. Une proposition de loi devrait être déposée en urgence d'ici la fin du mois. Alors je pense que c'était octobre qu'elle écrit cette lettre, cette dame. Elle représentait un texte de 2007 dans lequel il s'agissait de pouvoir imposer ce châtiment aux violeurs d'enfants de moins de 13 ans. Selon Michel Alliomari, cette affaire dramatique illustre la nécessité de renforcer encore notre dispositif de lutte contre la récidive et de prise en charge des criminels sexuels. Fin de citation. Non, ce que cette affaire illustre, c'est votre propension éhontée à faire d'un drame une opportunité politique. Yves Nicolas, député UMP s'apprêtant à déposer la proposition de loi dont il est question, présente les choses d'ailleurs sans détour. Autrefois, l'opinion et l'État n'étaient pas prêts à aller dans ce sens, mais ça a changé. nous devons profiter de ce fait tragique pour mettre en place cette solution qui a fait ses preuves. Profiter, alors fin de citation donc de Monsieur Yves Nicolas. Profiter, j'ai bien lu. Et comment profite-t-on d'un tel drame à l'UMP ? En recevant à l'Élysée les proches de la victime assassinée et en faisant la publicité de leur émoi intime alors qu'ils sont encore sous le choc. Votre stratagème relève de l'imposture. Vous n'éprouvez donc pas le moindre scrupule à exploiter la douleur d'autrui dans le but de récolter les faveurs de l'opinion publique quant aux visées barbares de votre politique populiste. Sans doute, misez-vous sur le fait que le procédé sera perçu comme légitime grâce à la prétendue nécessité de la castration chimique et sa supposée efficacité. À moins que vous ne comptiez plutôt sur l'immunité d'un discours qui affirme implicitement que s'opposer à vos intentions et vos méthodes revient à prendre le parti des criminels contre les victimes. Un tel stratagème relève de l'imposture, car, à y regarder de plus près, vos pseudo-solutions ne servent pas plus la protection des citoyens qu'elles n'assurent la défense des victimes. Et ce n'est pas la première fois que vous tirez profit de pareilles manipulations. Je n'ai pas la naïveté de croire qu'une lettre ouverte comme la mienne puisse avoir une quelconque incidence sur votre conduite. Mais j'entends exprimer publiquement mon indignation devant l'attitude profondément cynique et hypocrite qu'est la vôtre. Monsieur le Président, en tentant de vous faire passer pour le président des victimes, vous sortez du cadre de la simple démagogie. Les déclarations nimbées de pathétisme que vous-même ou vos collaborateurs prononcent à l'occasion de coups médiatiques savamment orchestrés par vos soins sont indignes. Elles dénotent un scandaleux manque de respect pour ceux dont vous vous servez. De plus, vous vous payez littéralement à la tête des millions de victimes anonymes de la pédocriminalité dont, dans les faits, vous n'avez que faire. Mais vos méfaits ne s'arrêtent pas là. Vos manœuvres politiques nous entraînent sur cette dangereuse pente où la justice tend à se confondre avec une arme de vengeance, au mépris des principes de notre République et au détriment des intérêts des victimes. Par ailleurs, votre instrumentalisation prend en otage celles et ceux que vous prétendez défendre, en les incluant de gré ou de force dans vos outrances. Vous répandez ainsi le préjugé qui veut que les victimes soient nécessairement porteuses d'attentes aussi exorbitantes que les propositions qui émanent de votre idéologie sécuritaire. Et parce que vous donnez à penser que se préoccuper d'elle conduirait nécessairement aux dérives qui sont les vôtres, nombre de citoyens soucieux du maintien d'une démocratie digne de ce nom considèrent désormais que la justice se doit absolument d'ignorer ces dernières. Pire, une part non négligeable d'entre eux se fait à présent un devoir de vilipender afin de les faire redescendre du soi-disant piédestal sur lequel vous les mettriez. Victime de viols répétés par deux agresseurs, dont un mineur, durant 10 années de mon enfance, je suis contre la castration chimique.